Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023. RMC
After Paris.
Le podcast
Nicolas Jamain.
Salut à tous et bienvenue dans le podcast After Paris. Bonjour à toi, adorateur de Francis Yasser et Mustapha Daleb. Cette semaine, autour de la table, coach Courbis. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Jimmy Brunella également. Salut Jimmy.
Salut Nico, salut coach, salut à tous.
Messieurs, on va parler du mercato ou du non-mercato parisien, bien sûr, dans ce podcast PSG. Leonardo est-il un mauvais vendeur? Oula, vaste question. Coach, tu vas te mouiller, hein. T'as un avis tranché là-dessus.
Oh bah évidemment.
Mais à 15 jours de la réception du Real en Ligue des Champions, on va faire un point sur l'état de forme du PSG. Faut-il être inquiet? Et on partira, bien sûr, de l'évaluation de ce PSG Nice. Paris sorti en Coupe de France au tir au but par le deuxième de Ligue 1. C'est parti.
Il est top, 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 top. Il est top professionnel.
Et on commence par le taulier. Ça te fait sourire. Il te manque, hein, Thomas Tourelle, un peu.
Ah oui.
T'aimais bien, hein?
Ah, je le trouve très sympa.
Il parlait français, lui, au moins.
Oui.
Eh oui, eh oui.
Ben oui.
Alors commençons, quel est votre taulier sur ce PSG Nice? Si vous en voyez un, bien sûr. Coach.
Taulier sur...
Sur les 90 minutes, hein, pas sur la séance de tir au but. Hein.
Au Paris Saint-Germain, ouais, ou à Nice?
Au Paris Saint-Germain, c'est le podcast Paris, là, coach.
Sincèrement, je vais dire les Kimpembe qui, peut-être, avec cette présence de Ramos, s'améliore.
Mon cher Jimmy, ton taulier.
Moi, je vais dire sans trop d'hésitation, Marco Verratti. Parce que c'est le seul, en fait, qui courait sur le terrain. Mais c'est le seul qui proposait, qui allait. On l'a vu surpasser ses fonctions, en fait. Le dépassement de fonctions de Verratti est devenu assez incroyable au PSG. Il n'y a plus que lui, en fait. Il fait des 1-2 avec Messi. Il récupère les ballons. Il se projette. Il fait des appels en profondeur, même.
Il a même failli marquer.
Il frappe également.
Il frappe dans le désert parisien. Non, dans le désert de l'animation offensive parisienne. Il n'y a que Verratti pour moi qui a ressorti.
Sur les 45 premières minutes, il courait dans tous les sens. Il était seul, hein, poussé un pressing.
Ouais, ouais.
Icardi ne suivait pas. Personne ne suivait. Donc ça ne servait à rien à l'arrivée, mais au moins il l'a fait lui.
Ce qui d'ailleurs, à un certain moment, ça devenait ridicule de le voir pratiquement tout seul en train de courir de tous les côtés.
Il est même parfois allé dédoubler avec Dagba sur le côté droit. Enfin, je veux dire, il y avait le pressing d'un côté et même les appels en profondeur, parce que tellement il n'y a pas de mouvement dans cette équipe que le seul qui essaye d'en créer un petit peu, c'est Verratti. Donc voilà, l'envie de le mettre en avant sur ce match-là. Et espérons une seule chose pour les supporters parisiens, c'est qu'il ne se blesse pas et qu'il ne lui arrive rien d'ici le match face au Real Madrid. Parce que, mis à part lui, on va parler du boulet dans un instant, c'est quand même le désert au milieu de terrain.
Bon, il manquait beaucoup de cadres, de titulaires, hein, au PSG. Ouais, au moins 5, voire 6, tu considères qu'Mbappé était absent sur ce match.
Dans tous les secteurs, même... En défense centrale, Marquinhos et Ramos, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que cette présence de Ramos, pour moi, elle est énorme. Mais pour le moment, ça ne se passe pas très bien.
Oui, il te manquait Di Maria, Neymar, Marquinhos, Hakimi, Gueye et Mbappé qui a joué la fin de la rencontre. Ouais. Ça faisait beaucoup quand même.
Mais non, ce qu'il faut quand même regarder, c'est faire des comparaisons. C'est des fois impossible. Mais il y a une déception dans cette élimination qui, pour moi, n'est pas imméritée par rapport au gros match que font Nice avec leurs moyens, leur organisation et leur façon de jouer. Mais si tu as l'équipe qui a démarré le match hier dans notre championnat de France, qui n'est peut-être pas le meilleur d'Europe, mais le Paris Saint-Germain, pour moi, n'est pas champion avec l'équipe qui a démarré hier.
C'est sûr. Top 5 sûrement, mais...
Réfléchissons comme ça, les passionnés et les supporters de Paris Saint-Germain, et puis après, on se consolera facilement.
C'était une équipe.
En se disant que cette élimination, c'est peut-être une bonne chose, compte tenu que...
Oui, je suis d'accord avec toi.
Que le fait... Il y a un tirage au sort de Mademoiselle Coupe de France qui est toujours aussi surprenante, de rencontrer l'OM 3 jours avant le Real, c'était pas un cadeau de la Coupe de France.
Une semaine.
Une semaine.
Combien, une semaine
un match avant, oui.
5 jours, non?
Non, parce qu'en fait, ça aurait été le mercredi ou le mardi, ensuite t'avais Rennes le vendredi et t'aurais joué le Real Madrid le mardi suivant.
Enfin, tu évites un match à forte intensité, tension et pression à une semaine du Real. Effectivement, ah bah oui. C'est presque une bonne nouvelle pour le PSG, même si quand t'es supporter parisien, t'as envie d'aller chercher Marseille en quart de finale.
Et j'espère en tout cas que les joueurs, ou que ce soit les joueurs ou l'entraîneur, n'ont pas fait ce calcul-là une fois qu'ils étaient sur le terrain. Je pense qu'ils ont quand même cherché la qualification.
Oui, je pense. Parce que bon, c'est pas la première fois que je vois un Paris Saint-Germain moyen qui est sauvé dans les cinq dernières ou dans les deux dernières minutes. Là, presque on était surpris que dans les deux dernières minutes, il n'y ait pas eu un tir dévié qui donne la victoire au Paris Saint-Germain. Et le petit Simons, eh bien, au lieu de lui taper dessus, on va lui dire que peut-être, sans le savoir, il a qualifié son équipe contre le Real.
J'adore. Bon, personne n'a tapé sur Simons, j'ai l'impression.
Oui. C'est sûr qu'on peut quand même...
Très vite, tout le monde l'a soutenu, sur les réseaux, en tout cas.
On peut ne pas être content que deux, trois joueurs, si j'ai bien compté, un peu plus expérimentés que ce petit, auraient pu tirer à sa place.
On a Kimpembe, il y a Danilo, il y a Kerrer, notamment, qui auraient pu tirer avant.
Il me semble.
Jingle boulet.
Scuse.
Oh, mais là, c'est trop
c'est
facile.
C'est fugace, hein. Vas-y.
Ben, j'ai aperçu un joueur avec le maillot de Paris Saint-Germain qui courait un petit peu de temps en temps et qui avait les cheveux blonds.
C'est cheveux, pas naturel les cheveux, hein.
Ouais, qui sont teints.
Il a fait un truc. Ah oui,
blond peroxydé.
Ouais, il était.
Marco Mauro, un comme peu, ça, son prénom.
Peut-être en position d'attaquant, ouais. Tu vois.
6 ballons, Roland, en 64 minutes. 6 ballons touchés.
Tant que ça?
C'est énorme, hein.
Mais quoi, je les ai pas vus, moi, les 6 ballons.
Les gars, précisons, en général, même quand il tournait bien au PSG, il était sur une moyenne de 20 ballons touchés, hein. C'est pas ça, finalement, qui raconte son match.
C'est plutôt les
appels à l'envers, là. C'est plutôt la participation au pressing.
On plaisante, mais là, c'est pas rigolo du tout. Tu te mets à la place d'un président, tu te mets à la place d'un directeur sportif, tu te mets à la place d'un entraîneur, et quand après tu regardes les Twitter, les machins, les photos un petit peu bizarres, et tout, tu te dis, mais on est où, là? Mais le mec, il se rend compte de ce qu'il gagne dans sa vie tous les mois, ce mec, là? Je sais pas, je me pince par moment.
Bon, a priori, en plus, c'est pas terminé. On est sur un énorme feuilleton.
On parlait d'Icardi.
Sentimental. Hein. On parlait de Mauro Icardi, je crois que tout le monde avait compris. Il y a peu de joueurs peroxydés à Paris actuellement. On verra Neymar quand il va revenir, hein, peut-être, hein, qui va faire la coupe qui va bien. Voilà pour ton boulet, Jimmy, toi.
J'ai presque honte, moi, mais je vais dire Léo Messi. Parce que je ne le reconnais pas, en fait. Et j'aimerais bien t'entendre sur Messi, Roland. Parce qu'à la limite, qu'il ne court pas beaucoup, ça, on avait pris l'habitude. Mais il y a un déchet technique de Léo Messi que je ne lui ai jamais connu dans sa carrière, en fait.
Mais écoute, tu sais, moi, pourquoi je suis indulgent.
Il n'est pas aidé, il n'a pas de solution, les joueurs ne font pas d'appel,
pourquoi
etc.
Pourquoi je suis indulgent avec Messi? Pas seulement par admiration. C'est que j'ai une habitude, je ne sais pas si c'est une qualité, j'ai une habitude, je me mets à la place des gens, et j'essaye de me mettre à la place des gens, que ce soit dans une discussion, que ce soit dans une réflexion. Et quand je me mets à la place de Messi, malgré son talent qui ne peut pas être contesté, dans l'organisation de Paris Saint-Germain, qui n'existe pas, changer de pays, changer de coéquipier, changer des habitudes, changer de climat, après avoir été 21 ans dans un endroit, ben là, je pense que Messi n'est pas encore complètement arrivé dans son nouveau club.
Il va falloir que ça arrive, Roland.
Mais oui,
parce que là, on est en février.
Et je vais te faire un pronostic. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain gagnera la Champions League ou déjà se qualifiera contre le Real. Mais je pense que si ça arrive, justement ça, eh ben Messi n'y sera pas étranger. Parce qu'effectivement, je trouve normal qu'on soit déçu de Messi. Ben moi, je lui accorde circonstances atténuantes par rapport à ce qu'on lui demande et à ce qu'on demande à son cerveau. Ben c'est
moi,
un petit
bien
peu
coach,
compliqué. Et ça me démontre qu'il est tout simplement normal et ce n'est pas un extraterrestre, c'est un être humain.
Alors, ok, que l'environnement Ligue 1 plus physique, on dit qu'il était surpris par l'impact physique de notre championnat de France. En Ligue des Champions aussi, il n'était pas là, hein. Il a marqué un but somptueux, certes, mais tu l'as vu sur la scène européenne. Il a brillé avec le Barça sur la scène européenne, évidemment.
Mais oui, mais
et
c'est...
donc la question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que parce qu'il va affronter le Real, on va retrouver un grand Messi qui connaît
mais,
ce genre d'adversaire
non, si,
et ce type de football?
Je me suis mal fait comprendre. Tu es en train de me dire que Messi n'a pas été bon non plus
En Ligue des Champions.
Mais évidemment, mais même aux entraînements, peut-être qu'il n'est pas bon. Je te dis qu'il n'est pas encore dans son nouveau club, dans ses nouvelles habitudes, à 100%, au grand maximum à 50%. Et je ne serais pas étonné que Messi, à partir du mois prochain, soit à 70, 80% et qu'il termine les deux derniers mois en étant le grand Messi qu'on a connu au Barça.
Dommage,
je
ne
serais pas étonné du tout.
Si Paris n'est plus en Ligue des Champions le mois prochain, comme tu dis, ce serait un problème. Il ne resterait plus que des matchs de championnat à jouer.
Moi, j'avais une question pour toi, Roland, parce qu'effectivement, moi, il m'a toujours habitué à être un extraterrestre, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'aider que de le faire encore jouer sur un côté ? Est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre dans l'axe ? Est-ce que ce ne serait pas lui rendre service que de le mettre dans un rôle un peu plus axial ?
Ah non, si on rentre dans ce sujet, premièrement, ce n'est pas que je suis d'accord avec toi à 100%. Je suis d'accord avec toi à 200%. L'organisation de Paris Saint-Germain, il n'y en a pas. Et que ce soit bien clair. Et si on peut parler d'organisation, arriver à un certain moment, si tu me dis le joueur le plus important pour gagner la Champions League dans l'effectif de Paris Saint-Germain, je t'en donne deux. Et Messi, je le mets en troisième. Je te dis Mbappé, Ramos et Messi ex aequo. Allez, donc pour moi, l'organisation pour avoir ces couloirs qui sont redoutables, trois arrières centraux, Et ensuite, de jouer en 3-4-2-1. Et dans les 2-1, il y a évidemment Messi dans l'un des deux. Et après une pointe. Et là, je pense que cette équipe de Paris Saint-Germain, avec par exemple deux milieux devant les trois arrières centraux, Verratti et Wijnaldum, je pense que là, bizarrement, on verrait un autre Messi. Là, tu me parles du côté droit, mais quand je vois Messi, je suis allé voir le match contre Reims. Il regarde à droite, à gauche, il n'a pas du tout ses repères, parce que de repères, il n'y en a pas. Donc le mec qui cherche des repères, il n'y en a pas, c'est difficile de les trouver, il n'y en a pas.
Ce comportement, il avait aussi au Barça parfois, quand tu le regardais, il regardait à gauche, à droite, et à un moment, il se mettait en exécution, et il allait très vite. Et sur un côté, ça impliquerait éventuellement Jimmy, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, de compenser les éventuelles montées de son piston. Pas forcément là qui serait le plus utile.
Actuellement, hier, il joue sur le côté droit.
Quand on regarde le match. Il est très libre, finalement, dans ce positionnement. On le voit à gauche, dans l'axe, on le voit marcher à droite, on le voit...
T'as envie de l'avoir dans un rôle, moi je pense, un peu plus axial, ce serait lui rendre service que de le mettre dans un rôle un peu plus axial qu'hier, où quand même, on était quand même sur un 4-3-3 au départ, où il est côté droit, on a Draxler côté gauche et Icardi en pointe. C'est ça le schéma de départ.
Quand tu vois, je chambre un peu, mais excuse-moi, j'ai toujours été taquin, je ne vais pas changer aujourd'hui. Quand tu vois hier cette équipe jouer, tu te mets à la place de Messi. D'un coup, il lève la tête, il te voit arriver un Verratti, qui saute de tous les côtés. Il se tourne, il voit le premier partenaire.
Devant le micro.
Le premier partenaire, il est à 20 mètres. Il y a un changement, il se dit, tiens, bon, il va y avoir un changement. Là, je vais certainement passer en retrait du numéro 9. Il va rester Icardi, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir quand même un centre avec une tête d'Icardi. Non, c'est poste pour poste. Et on met Mbappé en pointe. Tiens, Messi qui a dû se dire, pourquoi pas. Je pense que par moment, il doit se demander s'il n'est pas sur une autre planète.
Oui.
Pas seulement dans le football. Paris, la capitale, les habitudes, les gosses qui ont changé, ils ont changé de maison. Sincèrement, il est là, il regarde en haut, à droite, il se pince, il dit, ah merde, c'est vrai, je suis sur un terrain de football, où je suis à Paris Saint-Germain. Mais c'est une équipe de football, ça c'est une organisation, on joue en quoi ? En 4, 1, 3, 4, 5, 12... C'est compliqué les amis.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Donc on le rappelle, le 15 février, PSG Real, 8e de finale aller de Ligue des Champions. Neymar, les infos, pour l'instant, 2 mois sans jouer. Il a repris la course, il n'a pas touché le ballon, Jimmy, hein, c'est bien ça.
C'est ça, il reste optimiste pour lui. Son grand objectif, c'est évidemment de jouer contre le Real Madrid. Après, il faudra voir l'état dans lequel il sera, mais on est optimiste du côté du Paris Saint-Germain de l'avoir à minima dans le groupe pour le PSG Real le 15 février. Ça arrive vite.
Et autre chose aussi, pour en revenir à Messi au Paris Saint-Germain, rencontrer Nice, c'est pas un cadeau.
Bien sûr. Oui, et ce bloc niçois. Notamment Todibo qui a été excellent face au PSG.
T'as raison.
Concernant le mercato, messieurs, donc rien. Walou. Zéro, ni arrivée, ni départ. On a eu la confirmation également peut-être que Leonardo est un mauvais vendeur, coach. Hein. Et Jimmy, zéro départ d'un PSG qui doit pourtant dégraisser aussi.
Ouais, mais tu vois, si tu veux, c'est pas le chien qui se mord la queue. C'est quelque chose de logique. Je vais pas apprendre à Leonardo ce qu'est le commerce à partir du moment où tu achètes, quand tu es Paris Saint-Germain et que tout le monde est au courant. Et c'est pas seulement pour Paris Saint-Germain, pour les clubs qui sont riches, les prix ne sont pas les mêmes. Les salaires des joueurs ne sont pas les mêmes. Donc pour les acheter, eh bien, ok, tu arrives à trouver des solutions parce que le chèque, il est presque illimité. Mais évidemment que pour les revendre, c'est compliqué.
Moi, je vais juste faire un petit comparatif avec l'époque d'Antero Henrique. J'ai les joueurs sous les yeux, là. En 2017-2018, Augustin qui part pour Leipzig, 16 millions d'euros. Aurier à Tottenham, 25 millions. Matuidi à la Juve, 25 millions. Lucas Moura à Tottenham, 30 millions. D'accord ? La saison suivante, Guedes part à Valence, 40 millions d'euros. Pastore à la Roma, 25 millions. C'est des joueurs qui avaient des gros contrats au Paris Saint-Germain. Berchiche part à Bilbao, 24 millions d'euros. Hudson-Edouard, 10 millions d'euros au Celtic Glasgow. On arrivait quand même à vendre. Leonardo arrive en 2019-2020. Il arrive en juin 2019. Les départs, Santero qui les avait encore gérés, il les a juste finalisés. Lo Celso à 22 millions d'euros qui part au Betis. Diaby qui part pour 15 millions. Nkunku pour 13 millions. Depuis ces transferts-là, donc, qui avaient été amorcés, ces départs-là, par Antero Henrique. Depuis le retour de Leonardo, j'ai quoi ? J'ai Moussa Sissako la saison dernière, Standard de Liège, 400 000 euros. Et j'ai Mitchell Baker à Leverkusen pour 7 millions. Et c'est tout. Sinon, c'est que des prêts ou des départs libres. À un moment donné, Roland, je veux bien qu'il y ait des gros salaires, mais il faut aussi avoir un réseau, il faut pouvoir avoir ses entrées dans des clubs différents, il faut pouvoir... C'est un talent aussi, ça fait partie du métier de directeur sportif que de savoir bien vendre. D'accord. Et c'est pas une qualité qu'a Leonardo.
Allez, je te rejoins peut-être, mais parmi les exemples que tu donnes, à 80% ils sont bons, mais si, par exemple, on parle d'un concours, c'est comme si, là... Les 3-4 jeunes qui sortent là de Paris Saint-Germain, tu arrives à les vendre. Ben évidemment, ils sont faciles à vendre. Ils n'ont pas encore eu les gros salaires. Et je trouve que Nkunku vendu 15 millions d'euros, je trouve que c'était une bonne vente à l'époque. Même si aujourd'hui,
tu
peux avoir des regrets.
Je t'ai pas parlé que des jeunes, mais un joueur comme Berchiche, il sort à Bilbao pour 24 millions. Pastore, qui était déjà en difficulté, il sort pour 25 millions à la Roma. Guedes, 40 millions à Valence. Il y a eu des transferts qui ont été faits. Il y a eu des départs qui sont
un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui achète bien et qui vend bien aussi. Quoi.
Et puis rien n'interdit au Paris Saint-Germain de faire comme d'autres le font, notamment le Real Madrid, c'est leur spécialité, de mettre des clauses de rachat sur des joueurs. Tu peux vendre un jeune, tu peux prendre le risque de vendre un jeune. Là, il y a le départ notamment de Dina Ebimbe qui a capoté pour d'obscures histoires de clauses, d'options d'achat. Voilà, on a négocié un certain montant avec les Leverkusen, on s'était mis d'accord. Finalement, Leonardo a réclamé un peu plus. Au final, il n'est pas parti, le joueur. Ils ont voulu l'envoyer à 3 hier.
Tout à fait.
Et finalement, il a fini par ne pas prolonger son contrat. Et tu vas peut-être perdre encore un nouveau jeune avec Dina Ebimbe. C'est compliqué. Et n'oublions pas aussi que un joueur comme Kurzawa, par exemple, je donne son exemple, c'est sous Leonardo qu'il a prolongé son contrat. Donc il faut voir aussi, il faut réfléchir en termes de stratégie de long terme.
J'ai appris le salaire, effectivement, j'ai été surpris.
Après, on peut comprendre, on peut se mettre à la place des joueurs, Roland.
Il faut dire aussi que depuis que Leonardo est arrivé, les règles du fair play financier ont été assouplies et qu'il y a peut-être moins d'urgence dans son esprit à vendre que sous Antero Henrique, qui était beaucoup plus sous pression quand même pour entrer dans les clubs.
Absolument, mais tu aurais pu satisfaire ton entraîneur, Mauricio Pochettino, qui désirait Tanguy Ndombele, ça on le sait, on le dit et on le répète.
Léo n'en a jamais voulu, c'est ce qu'on sait aussi.
C'est un problème.
Après,
c'est toujours le même problème. C'est le même problème qu'il y a eu avec Thomas Tuchel qui est parti parce que finalement ça se passait mal avec Leonardo. C'est le problème. C'est un problème récurrent au Paris Saint-Germain. C'est dur cette relation entraîneur directeur sportif.
C'est sûr, mais c'est pas simple du tout.
Voilà pour ce podcast After Paris. Merci pour toutes ces infos, Jimmy. C'était très intéressant, très clair. Tu nous as assommé de tes arguments implacables. Merci, coach, également. Ton analyse.
Salut, bravo, Jimmy.
L'intégration de Messi en France.
Ben écoute, excuse-moi d'être son avocat.
Il y a un petit billet à prendre côté de l'avocat de Messi, à mon avis. Allez, à très vite pour un prochain podcast After Paris. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de les noter également sur toutes les plateformes de téléchargement. Bye bye.
RMC After Paris. Le podcast Nicolas Jamain.